Pour l'amour de Sion, Israël, mythe et réalité. Bonjour, nous sommes Stéphanie Soufir et Michael Varsvi, nous sommes à Radio TAF à Tel Aviv. Nous vous proposons une série d'émissions dédiées à Israël et au sionisme. À travers l'histoire, les grands événements qui ont marqué Israël, les personnages qui l'ont façonné, les idées et les mouvements de pensée qui ont forgé cette histoire, notre but est de comprendre, d'expliquer, de donner des faits et des éléments de réponse aux questions que tout le monde se pose sur Israël et sur le sionisme. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à David Ben-Gourion. Bonjour Michael.
Bonjour Stéphanie.
David Ben-Gourion, il me semble que tu l'as rencontré, non ?
Ah, c'est un ami. Oui, j'ai eu la chance, puisqu'on va parler d'un souvenir personnel quand même.
Absolument.
On ne va pas que parler d'histoire dans cette émission. On a marre, ça suffit.
Ça suffit.
Et oui, j'ai eu la chance de rencontrer Ben-Gourion à Paris en 1969, si mes souvenirs sont bons. Je crois que c'est la dernière fois qu'il est venu à Paris. Il n'était plus dans la vie politique, puisqu'il avait quitté la vie politique, je crois, quelques années auparavant. Il était venu pour rencontrer la jeunesse juive de France. Et je me souviens d'avoir été le représentant de la jeunesse juive française en 1969. Oui, j'étais jeune, beau.
Tu l'es toujours.
Mais oui. Et donc, c'était au cinéma Rex à Paris, devant plus de 3000 personnes jeunes de la communauté. Il avait voulu absolument rencontrer uniquement la jeunesse. Et voilà, je lui avais parlé. J'avais également parlé au nom de la jeunesse pour le remercier pour tout ce qu'il avait fait pour le peuple d'Israël, pour la jeunesse juive aussi. Et puis, c'est très, très, très émouvant. Il était déjà très âgé, un petit peu fatigué, pas en très bonne santé. Il est mort quelques années, peu de temps après. Et il m'a dit deux choses, voilà, que j'ai appliquées.
Et quelles sont-elles ?
Il m'a dit « Apprends mieux l'hébreu que tu ne le sais et fonde une famille et élève des enfants en Israël. » Bah, je crois que c'est ce que j'ai fait. J'ai écouté Ben-Gourion, même
fait.
Si, voilà, politiquement, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il a dit d'ailleurs dans cette journée-là, mais Ben-Gourion, c'est vraiment le personnage peut-être emblématique du XXe siècle, d'une certaine façon, parce qu'il a eu la chance d'être celui qui a réalisé le rêve de Herzl et qui a fait qui a été le premier dirigeant d'un État juif souverain au XXe siècle. Après 20 siècles d'exil, enfin, le peuple juif redevenait indépendant et souverain sur sa terre, et il a été le premier ministre, celui qui a fait cette déclaration d'indépendance. Il a été d'ailleurs 9 fois Premier ministre dans des gouvernements différents, avec différentes coalitions. Il a été, je pense, peut-être celui qui a le plus marqué la démocratie israélienne en fixant un certain nombre de règles qui ne sont pas toujours forcément excellentes à long terme. Mais c'est lui qui a, je crois... structurer un peu l'état d'esprit de ce qu'est l'état d'Israël moderne, à savoir un état juif et un état démocratique. Et donc, il en a fixé un certain nombre de règles, et il n'a pas été en mesure de faire voter une constitution, et donc la déclaration d'indépendance qu'il a lue le jour de cette déclaration d'indépendance, donc de ce 14 mai 1948, Hei Beyar en hébreu, Tachar, donc il a fixé finalement les règles constitutionnelles de l'État d'Israël, les grands principes qui allaient gérer l'État d'Israël, à savoir la relation avec ce qu'on pourrait appeler le patrimoine juif, l'héritage culturel juif, l'hébreu, la Bible, etc. Et aussi les règles de fonctionnement d'un État démocratique. Il a établi un certain nombre de... il a établi le système politique israélien. Ce système politique qui est à la fois, je dirais, hyper démocratique, parfois même certains pensent trop démocratique. Donc il a instauré ce système électoral, ce régime politique de la proportionnelle absolue, qui permet d'un côté, effectivement, sur le plan démocratique, une représentativité maximale de toutes les franges de la société israélienne, mais qui aussi... créer parfois des problèmes de gouvernance, comme on dit aujourd'hui, à savoir des difficultés à créer des coalitions stables Et donc, on voit qu'à long terme, peut-être que ce régime politique doit être modifié, mais c'est extrêmement difficile de modifier ces règles constitutionnelles qui ont été établies dans cette déclaration d'indépendance, qui est un très beau texte que l'on pourra lire et étudier lors d'un séminaire prochain sur ces antennes. Texte extrêmement intéressant, avec beaucoup très très riche, et qui justement parle non seulement du fait que c'est un État juif, non seulement du fait que c'est un État démocratique, mais aussi qui parle des relations avec les minorités et des droits égaux qui sont accordés aux minorités, et qui est aussi, à la fin de ce texte de la Déclaration d'indépendance dont il a été principal rédacteur, même s'il a fait agréer par d'autres personnes, ce texte permet, finalement, c'est un texte à la fin où on tend la main à ceux qui nous font la guerre. Il faut savoir que cette Déclaration d'indépendance, 14 mai 48, c'est en pleine guerre d'indépendance qu'il décide de créer l'État d'Israël ou de rétablir l'État d'Israël, parce que pour moi, ça n'est pas une création, mais c'est le rétablissement d'une souveraineté du peuple juif sur sa terre ancestrale. En tant que personne, évidemment, Ben-Gourion a été non seulement un homme politique, mais aussi un dirigeant au sein du mouvement sioniste, un dirigeant social, puisqu'il faisait partie de, disons, de la, ce qu'on appellerait aujourd'hui la gauche israélienne, le mouvement ouvrier israélien, mais aussi quelqu'un qui a eu, je dirais, deux idées centrales dans sa vision de l'État d'Israël.
Quelles sont-elles ?
Alors, je ne sais pas. la première vision, je crois que c'est une conception nationale, on appelle ça là, en hébreu « mamlartiyut », qu'on pourrait traduire en français avec un néologisme pas très réussi par « étatité », c'est-à-dire le sens de l'État.
D'accord.
C'est-à-dire que le sens de l'État, là, en français, on dirait peut-être la raison d'État, doit primer sur bien d'autres décisions. Donc, quelque part, c'était l'idée de « il faut avoir le sens de l'État » et laisser de côté ce qu'on pourrait appeler le côté partisan des partis politiques ou des syndicats ou de certaines franges de la population. L'État doit toujours, ce sens de l'État doit primer dans les décisions qu'on prend. Et donc, on a vu que Ben-Gurion, quand il est devenu le premier ministre de l'État d'Israël, eh ben, certaines fois, il a tourné le dos à ses amis politiques. C'est-à-dire qu'il s'est placé quelque part au-dessus des partis. C'est un peu ce sens, je dirais, de l'État avec une responsabilité qui dépasse la responsabilité partisane de tel ou tel groupe. Donc cette vision nationale de l'État, ça, c'est quelque chose qui était, je dirais, au fondement de sa conception de l'État d'Israël. C'est important, c'est resté. Cette idée-là, elle est fondamentale. Dans certains cas, il faut faire des arbitrages, faire des choix au nom de l'État. La deuxième chose, c'est la conception militaire et la conception sécuritaire d'Israël. Ben-Gurion a compris dès le départ que l'État d'Israël était un État qui se trouvait entouré d'ennemis, dans une région sensible, aussi bien sur le plan de la civilisation ou des civilisations, avec les conflits religieux, dont on voit aujourd'hui le sens qu'ils peuvent avoir, qu'il y a des grandes puissances, qu'il y a des intérêts qu'on appellerait aujourd'hui géopolitiques, à l'époque on n'utilisait pas forcément ce terme-là, que donc dans toute cette région-là, il faut essayer de sécuriser au maximum l'État d'Israël. Et donc pour sécuriser l'État d'Israël, il fallait faire deux choses. La première, renforcer son potentiel militaire. Et donc, c'est lui qui a été, pendant toute la période où il était Premier ministre, il a toujours voulu être également ministre de la Défense.
D'accord.
À savoir, contrôler l'État, c'était contrôler, disons, l'armée. Et en même temps, cette conception sécuritaire, c'est comment garantir la sécurité de l'État d'Israël. Alors, évidemment, il a été à l'origine de la volonté d'Israël de se doter de l'arme nucléaire, en considérant que Israël devait être le seul pays de la région, puisque c'était le seul pays de la région qui était menacé de destruction absolue par ses adversaires, qui voulaient détruire l'État d'Israël. Ils ne s'en sont jamais cachés. Ils ont toujours voulu éradiquer l'État d'Israël de la carte, donc effacer Israël de la carte. Donc il a considéré qu'il fallait avoir une arme absolue de dissuasion et que cette arme, nos adversaires ne la possèdent pas. Et on voit aujourd'hui, dans toutes les questions autour de l'Iran, le rôle que ça joue. À partir du moment où un de nos adversaires aurait cette arme nucléaire, le rôle que ça peut jouer, justement, ça annule finalement cette dissuasion. Là, évidemment, renforcer également le potentiel militaire, à savoir, ça veut dire aussi renforcer les budgets de l'armée, avoir des périodes des réservistes, mobiliser les femmes. Voilà, tout ça, c'est la conception sécuritaire de Ben-Gourion. L'autre aspect dans cette vision sécuritaire, c'était de créer des alliances. Et il a réussi, face à la Ligue arabe, c'est-à-dire face à ce qu'on appellerait aujourd'hui le monde sunnite, quelque part, hein, c'est ce qu'on appelle les sunnites arabes, il a réussi à l'époque à faire deux alliances qui ont été stratégiquement importantes pendant une longue période, je dirais presque jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on voit que depuis quelques années, ces alliances-là, enfin, en tout cas depuis la fin des années 70, ces alliances sont en train de se sont plus ou moins effritées d'une certaine façon. C'est une alliance avec l'Iran, c'est-à-dire avec ce qu'on pourrait appeler l'Empire perse, d'une certaine façon, et une autre alliance avec les Turcs, avec la Turquie. Donc l'alliance stratégique face au monde arabe, de s'allier avec l'Iran et la Turquie. Ça a été le choix, je dirais, sécuritaire, stratégique, géopolitique de Ben-Gourion, qui a fonctionné, je dirais, avec l'Iran, au moins avec le Shah d'Iran, disons, jusqu'à la fin des années 70, 79, l'arrivée de Khomeini. À partir de 79, évidemment, cette alliance avec l'Iran, avec les Perses, alliance historique, nous avions avec les Perses, a disparu. Et puisque les chiites sont devenus à la pointe, je dirais, d'intégrisme et de l'islamisme. Et avec la Turquie, depuis quelques années, ça commence aussi à se dégrader. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Israël se trouve dans une situation stratégique un peu compliquée, parce que cette alliance qui avait été pensée par Ben-Gourion, qui avait été, je dirais, élaborée par Ben-Gourion et ses gouvernements dans les années 50 et 60, ces alliances, malheureusement, sont en train de disparaître. Et il faut aujourd'hui essayer de maintenir, coûte que coûte, d'autres alliances peut-être avec d'autres pays sur le plan de la stratégie politique et militaire. Donc ça, c'est la conception sécuritaire de Ben-Gourion. Je crois qu'elle est extrêmement importante. Elle a permis à l'État d'Israël, dans les premières années, de se développer et, disons, de gagner les principales guerres, les principaux affrontements auxquels Israël a dû faire face.
Parle-nous du parcours de Ben-Gourion. Qu'est-ce qui a fait que cet homme qui était issu du parti socialiste, un socialiste, a eu ce parcours-là et est devenu ce socialiste sécuritaire, justement?
Alors Ben-Gourion a un parcours, je dirais, dans l'histoire du sionisme, on pourrait dire assez classique. Évidemment, il est probable qu'on ne devient pas un leader charismatique comme ça. Il y a des qualités, il y a un potentiel. Évident que David Ben-Gourion est quelqu'un qui avait des qualités à la fois intellectuelles, faut savoir qu'il lisait dans plusieurs langues, en 7 langues.
D'accord.
Donc il parlait, c'est intéressant pour nos auditeurs qui n'auraient jamais visité les deux maisons de Ben-Gourion. Il y a le musée de Ben-Gourion qui est à Tel Aviv, et il y a également la maison de Ben-Gourion à Sde Boker, qui est un musée aujourd'hui extrêmement intéressant, où on voit justement la bibliothèque de Ben-Gourion. C'est assez imposant. On voit des livres dans toutes les langues. Il lisait le russe, évidemment, l'anglais, évidemment, le français aussi. Il avait des capacités intellectuelles. Lui-même était né dans une petite ville, non pas sous le nom de Ben-Gourion, mais sous le nom de David Green.
Et c'est lui-même qui s'est appelé Ben-Gourion ?
Oui, il a décidé d'hébraïser son nom. Il est né le 16 octobre 1886 à Plonsk, qui est une petite ville qui se trouve à peu près à 60 km au nord de Varsovie, en Pologne. Et il était le sixième enfant de la famille Green.
D'accord.
Il décide, évidemment, sa première éducation, comme tous les juifs de cette époque, il est allé dans une yeshiva, donc il est quelqu'un qui avait des connaissances parfaites, je dirais, du judaïsme, de la Bible, et qui était extrêmement intéressé justement par tout ce texte de la Bible. Il a été membre, évidemment, de l'Organisation sioniste mondiale, et dès l'âge de 14 ans, il a commencé à militer dans une petite organisation qui s'appelait Ezra, et il a participé d'ailleurs à la première, premier congrès sioniste à Varsovie à l'âge de 15 ans. À 15 ans, il était déjà sur les tribunes. À l'âge de 18 ans, c'est-à-dire en 1904, il va décider de partir s'installer dans ce qu'on a appelé les Olim, les immigrants de la deuxième, de la seconde Aliyah.
À 18 ans, d'accord.
Voilà, et il va décider de faire des études techniques, justement, et il part en Israël. Lorsqu'il s'installe en Palestine, il va faire des études un peu techniques pour devenir ouvrier agricole.
D'accord.
Bon, évidemment, comme c'est quelqu'un qui doit avoir probablement la politique dans le sang, donc dès le départ, il est dans toutes les réunions, dans toutes les associations politiques, les réunions politiques. Et en 1906, il s'installe à Yafo, qui sera la première ville dans laquelle il va vivre en Israël. Il se considère déjà comme quelqu'un qui veut changer les choses. Et de Yafo, il va aller s'installer à Petah Tikva, qui était un petit village agricole à l'époque, hein, rien à voir avec le Petah Tikva d'aujourd'hui. Et là, il va commencer à travailler à la fois dans la cueillette, mais également comme maçon.
D'accord.
Donc il faut savoir qu'à l'époque, dans la conception, on en a parlé dans l'émission sur la Aliyah Shniya, l'idée d'être uniquement un intellectuel était une idée rejetée par cette conception. Il fallait être à la fois un intellectuel, mais aussi
un travailleur manuel.
Alors, quand on voit Ben Gurion qui devait faire à peu près 1m60, on se doute que c'était pas une force de la nature. Mais malgré tout, c'était quelqu'un qui avait une grande force physique également. Et donc, il a travaillé pendant toute cette période. Il a travaillé à Petah Tikva. Et ensuite, il a travaillé également dans une entreprise de viticulture à Rishon LeZion. Donc voilà, pendant toutes ces années-là, il est allé ensuite s'installer dans un autre endroit qui se trouvait en Galilée à partir de 1907-1908, à Sadjera, pas très loin du lac de Tibériade. Et donc c'est là qu'il a commencé à avoir une première formation militaire.
D'accord.
Parce que les Juifs qui vivaient dans ces villages-là étaient parfois attaqués, et donc il a commencé à être formé à l'autodéfense dans tous ces villages-là. Donc je pense que c'est à partir de 1908-1909 qu'il a compris la nécessité d'une formation militaire et la nécessité d'apprendre finalement le maniement des armes.
Oui, je comprends.
Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il a, je dirais, plus ou moins pensé ou conçu sa vision à la fois d'un développement économique et social, mais en parallèle aussi d'une force de défense militaire.
Nous allons faire une petite pause musicale, si tu veux bien, et nous nous retrouvons juste après.
Aïe, aïe, aïe. שונות רבות מספור דיברנו וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו ומקומות רבים מאוד עזבנו ורק מקום אחד רצינו ואהבנו ומקומות רבים מאוד עזבנו ואל הארץ, אל הארץ באנו שכת שיירה חינה מאה שעברה רחוקים כבר היוצאים עיקרים וחלוצים שעמלו עבדו בפרך בלראות את סוף הדרך ועכשיו עוברים אנחנו לא שקטנו ולא נחנו לא ימשיכו בלעדינו זוהי הרפתקת חיינו גטאות ומחנות תיגחנו אל הפיצות ואל הישימון הלכנו מקצות ערב מרוסיה ופולניה הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה מקצות ערב מרוסיה ופולניה הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה ומכל הגלו I'm not sorry. אשר נרדמה שוב התחילה מתעוררת ומדברת מסביב יהום הסער רב הקושי והצער אבל יש על מה לסמוך יש עוד אומץ יש עוד כוח
צומחת מסביבנו היא חזקה יותר מכל חסרונותינו
וגם הנגב עוד יהיה פה ריח
ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח
וגם הנגב עוד יהיה פה ריח ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח הסער בקושי והצער אבל יש על מה לסמוך יש עוד אומץ יש עוד כוח ונמשכת שיירה מן המאה שעברה רחוקים כבר היוצאים ניכרים בחלוצים שעמלו עבדו בפרך בלי לראות את סוף הדרך ועכשיו אומרים אנחנו לא שקטנו ולא נחנו לא ימשיכו בלעדינו זוהי הרפתקת חיינו
Michael, nous avons laissé notre David Ben-Gourion à son premier entraînement en formation militaire. Raconte-nous ce qui se passe ensuite.
Alors, ce qui se passe ensuite, c'est... Moi, j'ai écouté ce que Ben-Gourion a fait, je te dis.
Oui.
Il m'a dit qu'il faut s'hébraïser.
Oui.
Donc, à l'âge de 24 ans, il change son nom.
D'accord.
Donc, il va s'appeler David Ben-Gourion.
D'accord. Pourquoi Ben-Gourion ?
Eh bien, je pense qu'il a pris les noms de Green et il a trouvé, c'est un nom, Gourion, c'est un endroit, donc quelque part on dit Gour, c'est un lionceau, donc voilà, c'est un petit de Ben Gourion, voilà.
D'accord.
Et donc moi j'ai fait comme lui.
C'est vrai ?
Bah oui, à l'âge de 25 ans, j'ai changé de nom.
C'est vrai ?
Mais oui.
Ah, je savais pas ça.
Mais oui. Je suis venu en Israël, Ben Gourion m'a dit, il faut hébraïser. Je me suis hébraïsé.
Et tu t'appelais comment avant ?
Erchlikovitch.
C'est vrai ?
Mais oui.
On en apprend beaucoup, dis donc.
Bah oui. Ah ben Ben-Gourion m'a dit tu débraillises, je me suis débraillise.
D'accord.
Donc à partir de 1910, il est déjà 24 ans un dirigeant. Il est élu à la tête d'un certain nombre d'institutions et notamment ce qu'on appelait les Poalei Tzion, c'est-à-dire les ouvriers de Sion, qui était l'organisation socialiste ou travailliste, disons, principale ou des ouvriers et qui était finalement, le groupe politique peut-être dominant. En Palestine, et à partir de cette année-là, il va devenir, au fond, un homme politique. Il va commencer à voyager, il va se rendre à Salonique en 1911, ensuite il va dans d'autres endroits, et il s'inscrit à la faculté de droit.
D'accord.
Où ?
En Israël ?
Mais non, pas du tout, en Turquie.
En Turquie ?
Mais oui. Mais oui, il a étudié.
Pourquoi en Turquie ?
En Turquie, parce que c'était proche d'Israël. Et donc, il y avait également, il faut le savoir, que dans ces années-là, l'un des journaux de l'organisation sioniste était en Turquie.
D'accord.
Et qui avait une très importante organisation sioniste en Turquie. Et donc, il s'est installé à un endroit qui s'appelle Kushta.
D'accord.
Pas loin d'Istanbul. Enfin, encore une fois, c'est en Turquie. Alors, tu te rends compte que Ben-Gourion, il a fait des études en Turquie. Mmh. Et il est diplômé de droit de l'université de Kushta en Turquie. Et oui, ça arrive, les choses qui arrivent. Il continue évidemment, à partir de ce moment-là, à être extrêmement actif au sein du mouvement sioniste. Arrive la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il se trouve finalement parmi les gens qui sont considérés comme des ennemis de la Turquie, puisque l'Empire ottoman était face aux puissances, ce qu'on appelait de l'Alliance, et donc de l'Entente. Et donc, finalement, il ne peut plus retourner en Palestine, et il va faire des activités sionistes.
Oui,
il est considéré comme ne pouvant plus se rendre en Palestine pendant toute la période de la guerre, et donc il va s'engager dans ce qu'on a appelé les Gdoudim Evrim, on a déjà évoqué, c'est-à-dire cette légion juive qui a combattu au sein de l'armée britannique, et il encourage d'autres personnes à entrer dans ces Gdoudim Evrim pour justement créer cette première force paramilitaire juive. Dans la dernière année de la guerre, il va même se rendre à New York et participer à la création d'un mouvement qui s'appelait Echalutz, qui a été à la fois une organisation sioniste socialiste, mais également un mouvement d'autodéfense, qui va exister ensuite en Israël à partir de 1917. Et donc il rentre en Israël en décembre 1917 et il va d'ailleurs se marier.
Avec
Avec Paula.
Avec Paula.
Oui, d'accord. Paula, qui a été sa femme, et il a vécu avec elle jusqu'en 1968. Elle est décédée en 1968. Et bien entendu, ils ont eu des enfants, trois enfants, Geoula, Amos et Renana. C'était les noms de ces trois enfants qui ensuite ont eu d'autres noms, Ben Eliezer. Pas tous ont gardé le nom de Ben Gurion, puisqu'ils se sont après mariés, etc. etc. Geoula s'est marié avec un certain Ben Eliezer, et d'ailleurs, Yariv Ben Eliezer, qui est le petit-fils de Ben Gurion, est un professeur de communication bien connu sur Tel Aviv.
D'accord.
Donc la famille Ben Gurion a encore évidemment des descendants ici. Ce mariage, il restera fidèle, enfin ça je ne sais pas, je ne connais pas la vie de Ben Gurion à ce point-là, à Paula, et elle est morte en 1968, et ils sont enterrés tous les deux d'ailleurs à Sde Boker. Et j'encourage vraiment tout le monde à aller sur cet endroit qui est absolument magnifique, et on verra aussi cette importance qu'aura le Negev, mais on va y venir dans la vie de Ben-Gurion, qui considérait qu'il fallait développer toute la terre d'Israël. Alors pendant toute cette période, je dirais la période du mandat, Ben-Gurion va avoir des responsabilités, il va être à l'origine d'un mouvement qui va rassembler au fond toutes les forces de la gauche socialiste, avec Berl Skelsen-Hensohn et Eliyahu Golomb, qui étaient deux de ses partenaires. Il va créer une association, disons un parti politique qui s'appellera Ahdut Avoda, qui est à l'origine de du parti Avoda qui existe encore aujourd'hui, qui ensuite va intégrer d'autres forces pour devenir ce qu'on a appelé le Mapai, c'est-à-dire Mifleget Poale Eretz Israël, c'est-à-dire le parti des ouvriers d'Eretz Israël. Mapai va être le nom historique du Tnouat Avoda, c'est-à-dire du mouvement travailliste pendant des années. Il y a quelques années, pour des raisons politiques et internes, le Mapai a décidé de changer de nom et de revenir à son nom de Avoda. Mais il s'agissait en fait de ce mouvement qui a existé à partir de 1930 en tant que mouvement qui rassemblait toutes les forces. Il va entre autres créer autre chose qui est extrêmement important en Israël, c'est la Histadrut. La Histadrut, c'est, on pourrait appeler ça un syndicat, même si dans cette conception, c'était plus qu'un syndicat, c'était aussi une coopérative. À savoir qu'il ne s'agissait pas seulement d'un syndicat d'employés ou d'ouvriers contre un patronat, mais cette coopérative avait également des entreprises qu'elle gérait elle-même. Et notamment, elle a créé aussi toute une série d'institutions dans le domaine de la culture. Il y a beaucoup de cinéma, de théâtre, de bibliothèques, de maisons de la culture qui ont été créées par cette Histadrut, qui a également créé toutes les grandes entreprises d'Israël. Par exemple, Tnouva, qui était une grande laiterie israélienne, où certaines entreprises dans le domaine de l'industrie étaient, au fond, des créations de cette coopérative.
D'accord.
Donc c'était à la fois une coopérative qui était à la fois employeur et qui, en même temps, c'est un peu curieux aujourd'hui de comprendre ça, même si ça a changé, parce qu'aujourd'hui, la Histadrut est devenue qu'un syndicat. Mais pendant très longtemps, la Histadrut a été à la fois le représentant des syndiqués, si je peux dire, mais également aussi un employeur. C'était probablement avec l'État, par la suite, le plus gros employeur de l'État d'Israël. Donc il a été à l'origine de ce modèle social, je dirais, qui était un modèle d'une société socialiste, égalitaire, qui mettait en avant le travail, évidemment, le travail manuel, et aussi cette idée que pour gagner un pays, il faut non seulement en obtenir, je dirais, le gain politique, mais également le gagner par son travail. Et je pense que tu as un texte que tu voulais nous lire de Ben-Gurion.
Absolument. Pour nous, nous ne demandons pas la Palestine pour pouvoir y opprimer les Arabes, habitants de ce pays. Nous ne recherchons nul marché pour y écouler les produits des industries juives des pays de l'exil. Ce que nous demandons en Palestine, c'est une patrie. Nous désirons réparer la malédiction de l'exil, nous réunir à la source de notre identité, de notre créativité, de notre santé, la terre, et y faire renaître notre existence ancestrale. Une patrie ne se donne ni ne se prend en cadeau. Elle ne s'acquiert ni par des droits, ni par des traités politiques. Elle ne s'achète pas par l'or, ni ne se conquiert par la force brutale. Elle s'édifie par le labeur. Une patrie est la création historique et l'entreprise collective d'un peuple, le fruit du label physique, intellectuel et moral du peuple pendant des générations. Si un peuple a le droit de dire « ceci est mon pays, ma patrie », ce n'est que parce que ce peuple a construit ce pays. La terre est un don de la nature, et nul ne crée la glaise ex nihilo. Tout ce qui sert au bien de l'homme est l'œuvre de la nature. L'homme ne fait qu'apprivoiser la matière et les énergies naturelles par le travail de ses mains et de son cerveau, à son usage et pour son bien-être. L'appropriation du pays aux besoins de la nation par son labeur, l'appropriation et la fécondation des terres, la construction de routes, l'établissement des moyens de communication, la mise au jour de gisements et de richesses naturelles, la mise en place d'une industrie, etc. C'est cela la création d'une patrie. L'origine de tout droit véritable sur un pays, comme pour tout autre objet, n'est pas dans son autorité politique ou juridique. Elle est dans le droit qui découle du travail. La véritable, l'imprescriptible propriété de la terre appartient à ceux qui la travaillent. La Palestine nous appartiendra, non lorsque les Turcs, les Anglais ou la prochaine conférence de la paix nous l'accorderont et ratifieront ce don par un document diplomatique. Elle nous appartiendra lorsque nous, Juifs, la bâtirons. Le droit véritable, concret et imprescriptible sur cette terre, nous l'obtiendrons non des mains d'autrui, mais par notre propre labeur. Pour que la Palestine nous appartienne, nous devons la bâtir. La mission de notre mouvement de renaissance est la reconstruction du pays.
Magnifique.
Magnifique.
Et Ben Gurion a écrit ce texte, je crois, en 1915, donc bien avant la création de l'État d'Israël. Et c'est la conception de Ben Gurion, à savoir, il y a l'aspect politique, il y a l'aspect sécuritaire. Évidemment, il faut combattre, il faut obtenir le droit au sein d'organisations internationales, la reconnaissance de grandes puissances. Mais le véritable droit sur la terre, c'est le travail. C'est le labeur de l'homme et on ne reçoit aucun cadeau de la nature. Il faut travailler, c'est un devoir que nous avons envers cette terre et c'est cela qui est à l'origine, à la source, je dirais, de notre droit. Je crois que ça, c'est une conception fondamentale dans la vision de Ben-Gourion, à savoir, ça a été ensuite repris dans un très beau poème qui a servi et qui est lu souvent lors des cérémonies de commémoration de soldats qui sont tombés pour la patrie. C'est un poème d'Alterman qui s'appelle « Sur un plateau d'argent ». On ne reçoit rien sur un plateau d'argent. Nous ne sommes pas seulement, je dirais, des gens qui héritons d'une terre. Nous avons des devoirs envers cette terre. Et si nous n'accomplissons pas ces devoirs, nous n'avons pas droit à cette terre. Et donc, il ne s'agit pas seulement d'un combat, il ne s'agit pas seulement d'une lutte politique. Il y a aussi cette valeur du travail de la terre. Alors, je crois que c'est important pour bien comprendre la conception de Ben-Gourion, sa conception du sionisme, je dirais. Hein. Ce texte est pour moi un des très très beaux textes, très justement, sur la vision de Ben-Gourion. Alors, à partir des années, la fin des années 20, Ben-Gourion va être à l'origine de la création d'une institution qui va être, je dirais, le complément de ce qu'on appelle l'Organisation sioniste mondiale. C'est l'Agence juive pour Eretz Israël. Alors, cet agent juif pour Eretz Israël, dont il sera le dirigeant par la suite, pourquoi une agence juive alors qu'existait l'Organisation sioniste internationale? C'était pour permettre à des juifs qui soutenaient l'idée de création d'un État d'Israël ou d'un foyer juif en Eretz Israël, mais qui ne voulaient pas adhérer au programme de Bâle. Parce qu'adhérer au mouvement sioniste, l'Organisation sioniste mondiale, ça voulait dire adhérer au programme de Bâle, donc se considérer soi-même comme sioniste. Et donc la création de l'agent juif par Israël, c'était de permettre à des juifs influents, mais qui forcément, peut-être, n'étaient pas forcément eux-mêmes sionistes, d'entrer et de participer à la création de ce foyer juif. Des juifs, par exemple, comme Albert Einstein, qui ont fait partie de l'agent juif mondial, mais eux-mêmes n'étaient pas sionistes parce qu'ils n'avaient pas l'intention de venir s'installer en Palestine et d'y élire domicile. Mais, par exemple, ils étaient tout à fait pour la création d'une université. Et donc, un certain nombre de projets ont pu être mis en œuvre grâce à cet instrument qui s'appelait l'agent juif pour Eretz Israël et qui donc a servi de référent par rapport à, aux autorités britanniques, au mandat britannique, pour justement négocier toutes les questions à la fois d'organisation du Yishuv, mais aussi d'immigration. Alors évidemment, Ben Gurion et l'agence juive vont se heurter à cette politique du mandat qu'on a déjà évoquée, de limitation de l'immigration. Et donc, Ben Gurion va être, je dirais, avec d'autres dirigeants sionistes, va se retrouver face à cette, ce retournement, disons, de la politique britannique, qui va devenir petit à petit de plus en plus anti-sioniste. Mmh. Et donc, Ben Gurion est un de ceux qui ont essayé de changer les choses par des moyens politiques. Alors, ces moyens politiques, évidemment, c'était parfois des rencontres avec les Britanniques pour essayer de changer les choses. Dans un premier temps, Ben Gurion avait une attitude comme celle de Weizmann, qui était une attitude plutôt tactique, à savoir de ne pas perdre malgré tout le soutien des Britanniques, parce qu'ils pensaient que même si tel ou tel gouvernement ou tel ministre au sein du gouvernement britannique était contre le sionisme, il y avait quand même des amis, le mouvement sioniste avait quand même des amis au sein de la Grande-Bretagne, disons, du monde politique britannique, et donc on pouvait éventuellement changer les choses en trouvant des alliés politiques en Angleterre. Il s'est heurté à Jabotinsky, on a déjà parlé de Jabotinsky dans une émission précédente, il s'est heurté violemment à Jabotinsky sur cette question-là, parce que Jabotinsky, dès les années 30, a considéré qu'il fallait que les Anglais étaient devenus un ennemi, et qu'il donc il fallait combattre par tous les moyens l'Angleterre. Sur cette question-là, il y avait évidemment des divergences entre Ben Gurion et Jabotinsky, qui ont abouti au fait que Jabotinsky a quitté l'organisation sioniste mondiale, on en a parlé, pour créer une organisation, ce qu'on appelle moins révisionniste, c'est-à-dire une organisation, la nouvelle organisation sioniste. Jabotinsky et Ben Gurion ne s'aimaient pas beaucoup. Ben Gurion était extrêmement virulent, considérait Jabotinsky comme un extrémiste, et donc a eu des paroles très dures, même par rapport à lorsqu'il y a eu la montée de l'hitlérisme, du nazisme. Ben Gurion a, par l'intermédiaire d'Arlozorov, négocié des accords avec l'Allemagne hitlérienne pour faire sortir des juifs, le fameux accord de ce qu'on appelle le transfert de Havara. Il y a eu par la suite l'assassinat de Arlozorov, dont Ben Gurion a considéré toujours que ce mouvement révisionniste était derrière cet attentat ou cet assassinat, ce qui par la suite s'était avéré faux, mais malgré tout, il y avait des tensions politiques extrêmement fortes entre le mouvement socialiste, le mouvement ouvrier dirigé par Ben Gurion, et l'opposition qui était minoritaire du mouvement révisionniste.
À partir du moment, comme on l'a vu, où on s'est rendu compte que l'Angleterre était véritablement, il fallait le combattre comme un ennemi après la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il y a eu un espèce de désaveu de Ben Gurion ou...
Non.
Pas du tout.
Non, pas en Palestine.
D'accord.
Il y avait vraiment deux tendances. Une tendance majoritaire, qui était la tendance de Ben Gurion et de ses alliés politiques, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la gauche, mais disons c'est le mouvement ouvrier socialiste en Israël, qui était majoritaire, et majoritaire également au sein de l'agence juive et de l'organisation sioniste mondiale. C'est la raison pour laquelle Jabotinsky avait à l'époque estimé qu'il fallait quitter, parce qu'il ne pouvait pas avoir d'influence et il ne voulait pas non plus accepter l'autorité de Ben Gurion dans l'organisation sioniste. Donc il a créé sa propre organisation, et à partir de 1933 puis 1935, l'opposition était une opposition ouverte, qui a amené même à des violences entre ces deux groupes ou ces deux tendances au sein du Yishuv. Depuis, à partir de 1935, Ben Gurion a été le président de l'agence juive à Jérusalem, et c'est finalement lui qui a joué, je dirais, le rôle le plus important, puisqu'il a créé ce qu'on appelait Minhelet Ha'am, ou VAZ, qui était la continuation de quelque chose qui s'appelait le VAD Hayishuv, c'est-à-dire le comité du Hayishuv. Et Minhelet Ha'am, on pourrait dire, c'est une espèce de gouvernement, de pré-gouvernement.
Hein.
Donc, quelque part, Minhelet Ha'am, dirigé par Ben Gurion à partir de 1935, c'était une sorte de gouvernement avec des ministres qui a été en charge de différents dossiers, de différents sujets, et qui donc, par rapport à aux autorités britanniques et même par rapport aux Arabes, gérait les différents problèmes. Il faut savoir que de 1936 à 1939, il y a eu une révolte arabe, donc il y avait des émeutes. Mmh. Et donc la Haganah, dont Ben Gurion était finalement d'une certaine façon le dirigeant, même si ça passait par d'autres dirigeants comme Eliyahu Golomb, Yitzhak Sadeh ou Israël Galili, qui étaient ses adjoints. Mmh. Tous ces groupes-là ont été plus ou moins orientés par ce gouvernement ou pré-gouvernement.
Je te propose de faire une nouvelle petite pause musicale, Michael, et nous nous retrouvons juste après.
Umatzit kochavim cheresh cheresh et haruach over al hasaf ananim lehalachim al haderech kvar shana lo hirgashnu kimat if avru hazmanim בשדותינו כבר שנה ונותרנו מעט מרבים שאינם כבר בינינו אך נזכור את כולם את יפי הגלורית והתוהר כי ראות שכזאת ליבנו לשכוח אהבה מקודשת בדם את תשובי בינינו לפרוח הראות מסנוך בלי מילים אפורה עקשנית ושותקת מלילות האימה הגדולים את נותרת בהירה ודונקת הראות כנערה יפולם שוב בשמך נחייך ונלך כי ראים שנפלו על חרבם את חייך הותירו לזכר ונזכור את כולם את יפי הגלורית והתוהר כי ראות ש זאת לעולם לא תיתן את ליבנו לשכוח אהבה מקודשת בדם את תשובי בינינו לפרוח
Michael, nous sommes en 1935. Que se passe-t-il pour notre ami Ben Gurion ?
Notre ami Ben Gurion, il est toujours sur une politique qu'il appelle la politique de retenue, en hébreu avlaga. Et donc, lorsque éclatent ces émeutes arabes, il évidemment crée d'autres sections d'autodéfense, d'armement, et il commence à préparer finalement, ce qui semble être une guerre, et surtout le fait que les Britanniques n'agissent pas avec la fermeté nécessaire par rapport à ces émeutes. Au bout du compte, ils finissent par, par le faire. Mais éclate après la Deuxième Guerre mondiale et en même temps le fameux Livre blanc de 1939. Et Ben-Gurion aura cette phrase bien connue, nous allons combattre le Livre blanc comme si la guerre n'existait pas et nous allons faire la guerre comme si
le Livre blanc n'existait pas.
Donc il propose finalement aux Juifs de s'engager dans l'armée britannique, de combattre l'Allemagne, tout en gardant la possibilité de, d'ensuite de se révolter contre l'Angleterre, même si jusqu'en 1942, on ne sait pas très bien en Palestine ce qui se passe, on n'a pas tous les détails sur ce qui se passe en Europe, sur la Shoah, donc sur l'étendue de cette catastrophe. Mais à partir de 1942, on sait déjà qu'il y a des millions de morts. Mmh. Et donc, ce n'est qu'à partir de 1942, à la fameuse conférence de Biltmore, qui est dans un hôtel de New York, que Ben-Gurion décide d'adopter un programme qui va aboutir à la création d'un État juif. Mmh. Et c'est dit d'une façon directe. Jusqu'à présent, on parlait de foyer juif en espérant que les Britanniques mettraient en œuvre, mettraient en application ces clauses du mandat britannique, à savoir de préparer la création d'un foyer juif. Là, l'organisation sioniste, sous la férule de Ben-Gurion, va décider que le but du sionisme, c'est la création d'un État juif le plus tôt possible. Et donc, au terme de la guerre d'indépendance, dont nous avons parlé, où Ben-Gurion va jouer un rôle déterminant, cet État juif verra le jour. Ben-Gurion a pris la décision de créer cet État le jour du départ des Anglais, ou le lendemain des départs des Anglais. Ça ne s'est pas fait, de façon aussi évidente que ça peut le paraître aujourd'hui. Il y avait un certain nombre de dirigeants du mouvement sioniste qui estimaient que c'était un petit peu trop tôt, qu'il fallait peut-être attendre la fin de la guerre, et que l'idée d'annoncer officiellement, de déclarer officiellement l'indépendance, risquait de mettre en danger l'existence même du Yishuv, qu'il fallait que ce Yishuv se renforce, renforce ses positions, notamment sur le plan militaire et stratégique, pour faire de ses déclarations d'indépendance. Il a pris le risque, c'était un risque important.
Il a eu raison de le faire ?
C'est une question rhétorique. Il a eu raison de le faire, et peut-être, est-ce qu'il a eu raison surtout ? C'est difficile à dire, évidemment, qu'il a eu raison de déclarer l'indépendance de l'État d'Israël à ce moment-là. Évidemment, refaire l'histoire, ce serait très compliqué. Et certaines personnes estimaient qu'il fallait d'abord libérer la ville de Jérusalem et proclamer cette indépendance à Jérusalem et non pas à Tel Aviv. Voilà, c'est une question de stratégie politique. Je crois que l'idée, symboliquement, de déclarer l'indépendance de l'État d'Israël, l'indépendance retrouvée de l'État d'Israël et du peuple juif sur sa terre, le jour du départ des Anglais, ça me semble symboliquement important, et je crois que c'était une bonne décision. Après, il y a eu d'autres décisions prises par Ben-Gurion sur lesquelles on peut effectivement discuter, sur la stratégie de Ben-Gurion. Est-ce qu'il a adopté sur le plan militaire une excellente stratégie sur le plan de la libération d'un certain nombre de terres? Sur Jérusalem, les avis sont plus partagés sur à quel moment les troupes de Tsahal sont arrivées à Jérusalem, à quel moment on a accepté de signer des accords de cessez-le-feu, d'armistice, sans avoir toute la ville de Jérusalem libérée, et donc ce qui aboutissait au fait que les Juifs n'ont pas eu accès ce qu'on pourrait appeler les lieux saints juifs, même si la conception des lieux saints est différente dans le judaïsme, et notamment le Kotel. Le mur des lamentations, les Juifs n'y ont pas eu accès de 1948 à 1967. Et ça n'a dérangé personne dans le monde, d'ailleurs. Personne n'a dit que les Juifs ne peuvent pas aller prier dans l'endroit qui est le plus saint, le plus sacré, pour les Juifs. Donc il a renoncé, quelque part, sur Jérusalem. C'était un calcul politique. Pour lui, il s'agissait avant tout de renforcer l'État d'Israël en tant qu'État. Il a peut-être dans ses conceptions politiques commis certainement des erreurs, comme tous les dirigeants politiques. À mes yeux, il y a une question sur laquelle je suis plutôt en colère.
Ah, laquelle ?
Eh bien, je pense qu'il a accepté Et on voit aujourd'hui, dans les débats en Israël, ce que ça a provoqué. Il a accepté de dispenser tout le monde orthodoxe d'être recruté dans l'armée israélienne. La mobilisation, considérer qu'on pouvait dispenser une frange de la population orthodoxe de l'enrôlement dans l'armée, pour moi, de la mobilisation dans l'armée, pour moi, c'était une erreur historique. Alors Ben Gurion l'expliquait en disant qu'à l'époque, le monde des yeshivot, c'était quelques milliers de quelques milliers d'étudiants, et il dit on n'a pas besoin de ces gens-là. On peut très bien avoir une armée très forte, puisqu'on a mobilisé les femmes, puisqu'on a mobilisé tous les jeunes, et donc nous aurons suffisamment de soldats. Et la question n'était pas seulement une question de potentiel militaire, elle était plus symbolique, elle était plus justement sur cette conception nationale d'égalité face à la loi. Et je pense que ça, ça a été une erreur, parce que petit à petit, le nombre de dispensés
a
augmenté énormément. Alors, quelle était la conception, curieusement, pourquoi les orthodoxes et pourquoi Ben Gurion signait cet accord ? C'est assez compliqué, c'est que chacun pensait que l'autre ne durerait pas.
Ah bon ?
C'est-à-dire que Ben Gurion disait, de toute façon, voilà, le monde orthodoxe va disparaître dans quelques années, ils n'existeront plus. Et les orthodoxes pensaient exactement la même chose.
C'est-à-dire, ils disaient, finalement, de Ben Gurion ou d'Israël ?
Israël, ils disaient, c'est quelque chose d'éphémère, ça va disparaître. Donc finalement, tous les deux se sont trompés, heureusement. Mais je pense que ce problème est un vrai problème au sein de la société israélienne. Et ça a créé vraiment des divergences. Après, d'autres choses qu'il a établies, notamment dans le domaine de l'éducation. Par exemple, c'est quelqu'un qui a imposé dans le programme scolaire l'étude de la Bible. Il considérait que, au fond, le droit... Notre véritable droit historique, eh ben, il se trouve dans un texte que tout le monde a lu, d'accord, que le monde entier a lu, qui s'appelle la Bible. Mm-hmm. Donc, il est important que tout élève israélien lise dans les textes où se trouvaient ses ancêtres. Mm-hmm. Et comme, évidemment, tous les endroits qui sont mentionnés dans la Bible sont géographiquement des endroits où les enfants d'Israël se trouvent, ça leur permettait de comprendre ce qu'ils faisaient sur cette terre. Donc je crois que ça a été extrêmement important. Et d'un autre côté, lorsqu'il a imposé l'étude de la Bible, il a refusé l'enseignement de tout ce qui s'était passé entre la Bible et le sionisme.
C'est-à-dire
que finalement, toute la période, je dirais, du judaïsme diasporique n'a finalement pas été enseignée dans les écoles. On passait directement de la Bible à l'histoire moderne.
C'est étonnant.
Ben oui, c'est parce que y a dans la conception... de Ben Gurion, le sionisme était aussi une négation de la diaspora.
D'accord.
Et donc il fallait, quelque part, diminuer l'influence de ce judaïsme diasporique et mettre en avant le judaïsme, je dirais, d'Eretz Israël, qui était la Bible et le sionisme moderne. Donc ça, ça a été la conception de Ben Gurion, qui est peut-être discutable, mais elle a imposé, je dirais, une façon de voir le judaïsme, à savoir l'étude de la Bible, mais aussi... l'étude du sionisme moderne. Et entre les deux, il n'y avait pas grand-chose. Mmh. Alors évidemment, on parlait un peu de Maïmonide, voilà, on évoquait certaines personnes. Mais on n'enseignait pas ce qu'a été le judaïsme. Mmh. Et on s'est rendu compte, plusieurs décennies après, que c'était une erreur, qu'il fallait malgré tout. Mais pour Ben Gurion, il fallait d'abord renforcer les fondements du sionisme avant de passer à autre chose.
Mmh.
Voilà. Et le droit sur la terre d'Israël, pour lui, se fondait là-dessus. Et d'ailleurs, je crois que tu voulais nous lire quelque chose.
Absolument. Il reste un point qu'il ne faut pas oublier dans cette discussion. Lorsque nous parlons de la Palestine, nous en parlons toujours comme d'une entité géographique et historique bien établie. C'est exact et inexact à la fois. La Palestine n'est une entité particulière que dans la conscience du peuple juif. En dehors de celle-ci, elle n'existe pas comme entité. Elle n'est qu'une fraction du territoire dont dispose la nation arabe et qui est 100 fois plus étendue que le territoire de la Palestine. Nous disons donc, l'existence d'une nation juive de plusieurs millions d'habitants en Palestine n'est pas un danger pour la nation arabe, sa culture, son indépendance ni son existence. Les Arabes disposent d'un territoire grand comme la moitié de l'Europe, pour une population non de 400 millions d'habitants comme l'Europe, mais de 14 millions. Il faudra des générations pour assurer le développement de ce territoire, et il se peut que les Arabes ne trouvent pas les ressources nécessaires pour le faire. La Mésopotamie, à elle seule, a parfois compté une population plus nombreuse que l'ensemble de la nation arabe aujourd'hui. De sorte que, du fait du grand nombre de territoires et de peuples dont les Arabes disposent, l'établissement des Juifs en Palestine ne portera pas atteinte à leur indépendance. Je ne souhaite pas fonder notre droit sur le bien que notre établissement apportera au peuple arabe. Cependant, S'il est possible de quintupler ou de décupler les capacités de production du pays et d'y établir des masses de nouveaux travailleurs, si nous créons ici une culture qui nous soit propre, sans porter préjudice aux autres peuples, nul préjudice ne doit en découler pour la population arabe de Palestine, ni pour la nation arabe en général, bien au contraire.
Voilà la conception de Ben Gurion, un peu naïve à mon avis, d'une certaine façon. Oui, parce que penser que finalement les Arabes vont accepter le progrès social que nous leur apportons et en cela ils reconnaîtront le bienfait, je dirais, de l'État d'Israël. Pour eux, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors pour conclure sur le bilan, faire un bilan de la carrière politique de Ben Gurion, évidemment que c'est un leader qui dépasse l'histoire, on ne peut pas mesurer à n'importe quel autre Ben Gurion, n'importe quel autre Premier ministre. Mmh. Il a quand même eu il a marqué l'histoire du peuple juif et c'est certain que c'est d'une certaine façon une sorte de prophète du peuple juif. Et sa carrière politique, comme tous les hommes politiques, s'est terminée un petit peu de façon un peu triste. Ah bon ? Il a été rejeté par son propre parti, il a été mis en minorité, il y a eu plusieurs affaires qui ont terni la fin de sa vie politique. Il a créé un petit parti à l'époque avec Shimon Peres qui s'appelait le Rafi, qui était une espèce de rassemblement, qui était un tout petit parti, qui après 1967 s'est finalement retourné au sein du parti travailliste que lui n'a pas accepté. Et donc il a fini, je crois en 1970, fin 69, début 70, par démissionner de la Knesset et quitter la vie politique. Et il est parti s'isoler à Sdeboker, où il est mort. Il est mort, je crois, un petit peu isolé, c'est-à-dire un petit peu, je dirais peut-être même amer, par rapport à la vie politique en israélienne, même si historiquement, bien entendu, tout le monde reconnaît l'œuvre de Ben Gurion. Mais la fin de sa carrière politique, comme beaucoup d'hommes politiques, les hommes politiques ne savent pas toujours se retirer, même si lui s'est retiré finalement d'une façon assez honorable. Après la guerre de 1967, il était devenu extrêmement pessimiste. Et lorsque je l'ai rencontré, il n'était pas optimiste sur l'avenir de l'État d'Israël. Il avait certaines craintes. Il avait notamment une crainte, c'est qu'il pensait qu'il fallait rétablir des relations avec les Russes, avec des gens, avec tous ces pays qui à l'époque étaient des pays communistes mais qui avaient aidé à la création de l'État d'Israël.
Merci beaucoup Michael. Merci chers auditeurs de Radio DAF, pardon, et nous allons nous quitter en musique. Les Traotes.
Les Traotes.